Il est 23h et vous écoutez France Inter. Le journal Alexis Demeyer, bonsoir.
Bonsoir. Une étape cruciale dans l'enquête sur l'impeachment qui vise le président américain Donald Trump. Les auditions au Congrès de Washington sont désormais publiques et télévisées. Patrick Balkany dort à nouveau en prison cette nuit. Le maire de Levallois s'est vu refuser sa demande de libération. Une nouvelle demande sera prochainement formulée, indique son avocat. La mort du Cador Poulidor, le cycliste français éternel second sur le Tour de France, avait 83 ans.
France Inter.
À Washington, l'enquête en vue d'une destitution de Donald Trump entre dans une phase cruciale. Pour la première fois, les auditions au Congrès américain deviennent publiques, diffusées à la télévision. Les Américains vont pouvoir entendre les différents protagonistes de cette affaire née après la demande de Donald Trump à son homologue ukrainien d'enquêter sur son grand rival démocrate Joe Biden. Fini le huis clos imposé depuis 6 semaines, les démocrates, qui ont bien compris que la bataille se jouait aussi dans l'opinion publique, attendent beaucoup des témoignages de 2 diplomates. Grégory Philippe, les auditions tiennent-elles leurs promesses ?
William Taylor, l'irréprochable diplomate qui a servi tous les présidents américains, depuis Reagan, qu'il soit républicain ou démocrate, se lève, prête serment et jure de dire toute la vérité. L'actuel chargé d'affaires en Ukraine, nommé par le secrétaire d'État Mike Pompeo, évoque alors sa découverte d'une diplomatie parallèle. Il y avait une diplomatie officielle et non officielle. Elle était dirigée par Kurt Volker, le représentant spécial pour l'Ukraine, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mulvaney, et l'avocat du président, Rudy Giuliani. Puis il raconte comment l'aide militaire américaine, 400 millions de dollars, a été suspendue à l'ouverture d'une enquête par le pouvoir ukrainien sur la firme gazière Burisma, qui à l'époque employait le fils de Joe Biden. J'ai écrit que retenir cette aide militaire en échange d'une aide dans une campagne électorale américaine serait une folie. Je le pensais alors, je le pense encore. Bill Taylor avait déjà livré ce témoignage à huis clos, mais là l'audition est publique et diffusée en direct par quasiment toutes les chaînes de télévision américaine. Les démocrates espèrent que cela permettra de faire basculer l'opinion publique. Donald Trump, lui, est à la Maison-Blanche. Son service de communication fait savoir qu'il a des réunions de travail et qu'il ne regarde pas ses auditions au Congrès. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Le président turc Erdogan vient de qualifier d'inacceptable les récents propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. Le président français avait estimé que l'Alliance Atlantique était en état de mort cérébrale en déplorant l'attitude de la Turquie en Syrie. Recep Tayyip Erdogan a tenu ses propos depuis Washington, où il a été reçu par Donald Trump, le président américain qui assure à l'instant être un grand fan du Turc Erdogan. Le démissionnaire Evo Morales se dit prêt à rentrer en Bolivie afin, je cite, d'apaiser la situation. Après plusieurs semaines de contestations et d'accusations de fraude lors de la présidentielle du mois dernier, Evo Morales, qui était au pouvoir depuis 2006, s'est résolu dimanche dernier à quitter son poste après avoir perdu le soutien de l'armée et de la police. Depuis, le leader du mouvement vers le socialisme est en exil au Mexique. C'est une sénatrice, Janice Agnès, qui s'est autoproclamée présidente par intérim. Des affrontements ont éclaté ce soir dans le centre de la capitale La Paz entre des manifestants partisans de l'ancien chef de l'État bolivien Evo Morales et les forces de l'ordre. Patrick Balkany va déposer une nouvelle demande de libération. Le maire de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, en prison depuis le mois de septembre, s'est vu signifier ce matin son maintien en détention. L'élu de 71 ans est incarcéré pour blanchiment et fraude fiscale. Charlotte Piret.
Pour l'instant, 2 éléments maintiennent Patrick Balkany en détention. Le rejet ce matin de sa 2e demande de remise en liberté et la caution de 500 000 euros demandée dans le cadre de sa 1ère demande, montant qu'il n'a pas encore réuni à ce jour. Ces 2 points font l'objet de 2 nouvelles requêtes annoncées par ses avocats et qui ont donc vocation à être examinées prochainement. Ensuite, que Patrick Balkany reste ou non en prison, viendra l'appel de son 1er procès, celui pour lequel il comparaît avec son épouse Isabelle pour fraude fiscale. C'est prévu à partir du 11 décembre prochain. Le procès en appel de sa condamnation à 5 ans de prison pour blanchiment de fraude fiscale, cette fois, doit avoir lieu avant le 18 avril 2020. En cas de nouvelle condamnation à des peines de prison, mais aussi d'inéligibilité, celle-ci deviendrait définitive, empêchant le maire de Levallois-Perret de se représenter aux prochaines municipales après près de 30 ans de règne sur la ville. Sauf, et il y a fort à parier que ses avocats tenteront de le formuler, en cas de pourvoi en cassation, ce qui suspendrait la peine d'inéligibilité, au risque cependant de devoir faire campagne depuis sa cellule de la maison d'arrêt de la santé.
Charlotte Piret. L'hommage ce mercredi aux victimes des attentats du 13 novembre, 4 ans jour pour jour après les attaques au Stade de France, sur les terrasses de bars et de restaurants parisiens et dans la salle de concert du Bataclan. Des attentats revendiqués par le groupe État islamique qui avait fait 130 morts et 350 blessés. Le reportage de Rémi Brancato.
Des larmes, des étreintes, en mémoire des victimes des attentats devant la mairie du 11e arrondissement, les rescapés se retrouvent pour ce qui est devenu un rituel, nous dit Coralie de l'association Life for Paris, blessée de 2 balles au Bataclan.
J'ai fait toutes les commémorations, j'ai besoin d'être avec mes compagnons d'infortune, parce que ce sont les personnes qui me comprennent le mieux. Au niveau des émotions, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, c'est toujours compliqué.
Parfois tout va mal, les paroles de la chanson Everybody Hurts du groupe REM viennent rappeler la souffrance qui refait surface pour certains avec le temps, explique dans son discours Philippe Duperron, président de 13-11-15 Fraternité et Vérité.
4 ans se sont écoulés depuis la tragédie. Pourtant, de nouvelles victimes se déclarent encore aujourd'hui, conscience prise des dégâts au long cours. Des couples se défont, des vies professionnelles sont bouleversées encore.
À ses côtés, un olivier, symbole de paix, dévoilé ce matin. Ce sera surtout le tout premier élément du futur mémorial des attentats, explique Danielle Kélémoès, vice-présidente de 13-11-15. Elle a perdu son fils à la terrasse du restaurant La Belle Équipe.
Cet olivier sera positionné dans le jardin de mémoire qu'on est en train de concevoir avec la mairie de Paris. Le jardin, c'est la vie. C'est les enfants qui s'y promènent. À Paris, c'est important. Il n'y a pas tant que ça, des jardins.
Et le lieu de ce futur jardin mémorial n'a pas encore été trouvé.
Rémi et Brancato. Et juste après ce journal, France Inter vous propose d'écouter 2 épisodes de la série de podcasts de Sarah Guibaudeau. 13 novembre, l'enquête, qui sont à retrouver en intégralité sur notre site franceinter.fr. Le tueur en série Michel Fourniret et son ex-femme sont en garde à vue depuis hier, on l'a appris ce soir. Ils sont interrogés sur la disparition jamais résolue d'une jeune femme de 29 ans. C'était dans l'Orne en 1993. En 2008, Michel Fourniret a été condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres et les viols de 7 jeunes femmes et adolescentes. La mobilisation contre la privatisation d'ADP, les aéroports de Paris, avec peut-être bientôt des publicités radio en faveur du RIP, le référendum d'initiative partagée. La pétition pour bloquer cette privatisation décidée par le gouvernement a pour le moment recueilli 924 000 signatures, mais il en manque encore 3 800 000 pour faire aboutir le processus. Alors les parlementaires en faveur de ce RIP veulent passer par la case publicité, mais est-ce vraiment possible, Maxence Lambrec?
En théorie, c'est possible. Le gendarme de l'audiovisuel, le CSA, les laisse faire. Mais il faut d'abord trouver l'argent pour réaliser ce clip de 30 secondes et acheter des espaces publicitaires. Il y en a pour près de 100 000 euros. Et bien sûr, les parlementaires n'ont pas le droit de piocher dans leurs indemnités. Ils doivent mettre eux-mêmes de leur poche ou solliciter leur parti. C'est loin d'être gagné. Le sénateur socialiste Patrick Kanner dénonce le deux poids, deux mesures dans cette affaire post-gilet jaune.
On a claqué, permettez-moi l'expression, 12 millions d'euros à minima pour le grand débat qui n'avait aucune valeur constitutionnelle, qu'on est en train de dépenser des millions d'euros pour la privatisation de la FDJ, alors que nous, on fonctionne avec des bouts de ficelle pour essayer de mobiliser les Français. Et malgré cela, il y a près d'un million de Français aujourd'hui qui ont déjà signé cette pétition.
Le premier défi, c'est donc le financement de ces clips. Le second, c'est sa diffusion. Si le ministère de l'Intérieur qui héberge cette pétition lançait une campagne d'information dans les médias, elle serait évidemment relayée. Là, les régies publicitaires peuvent refuser de s'engager dans ce débat. Donner la parole à l'opposition sur ce sujet, cela peut paraître clivant. Et je vous annonce d'ailleurs que Radio France refusera de diffuser ce clip en s'appuyant sur l'article 37 de son cahier des charges. Je vous le cite, les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions politiques des auditeurs. Faire de la pub pour la privatisation de la Française des Jeux, ça choque mes convictions politiques, réagit Patrick Kanner qui ne veut pas en rester là et va solliciter d'autres canaux de diffusion.
Maxence Lambrec du service politique de France Inter. Que c'est triste, Venise, les pieds dans l'eau, 1 mètre d'eau dans la basilique Saint-Marc de la cité des Doges, c'est seulement la 5e fois en 1200 ans. Bruce de Galzin, cette récente aqua alta, la marée haute vénitienne, a été exceptionnelle.
Il n'y a plus d'eau sur la place Saint-Marc, elle s'est évacuée petit à petit. Mais hier soir, Denise était au restaurant avec ses amis lorsque le patron a décidé de les évacuer.
Ils nous ont demandé de partir à 10h du soir parce qu'ils ont dit « ça monte, vous avez déjà de l'eau aux genoux, partez, partez ». Effectivement, on avait de l'eau à mi-cuisse. On comprend enfin qu'est-ce que ça veut dire Venise commence à s'immerger.
Et cette situation, Clara ne l'accepte pas. Elle a 21 ans, elle étudie à l'université de Venise et a choisi de passer sa journée à ramasser les déchets remontés à la surface en raison de la marée exceptionnelle.
La ville est vraiment tombée à genoux. C'est pour ça que je donne un coup de main, parce que Venise en a bien besoin.
Les commerçants, eux, sont habitués mais supportent mal le fait que rien ne soit fait pour éviter les inondations désormais récurrentes. Les autorités ont tenté de s'en expliquer lors d'une conférence de presse à laquelle a aussi participé le patriarche catholique de Venise, Monseigneur Morelia, et qui lui aussi a demandé de l'argent.
Venise est une ville blessée, qui ne peut pas être blessée chaque année de la même manière. C'est une ville unique et elle a besoin d'efforts financiers au niveau national comparé à d'autres villes.
Selon le patriarche, les dommages causés à la basilique peuvent être irréversibles et des dommages encore incalculables, selon le maire de la ville. À Venise, Bruce de Galzin, France Inter.
France Inter. Alexis de Meyer.
Le géant américain du web Facebook annonce la suppression depuis le début de l'année de plus de 5 milliards de faux comptes. La direction du réseau social explique avoir amélioré ses capacités à détecter et à bloquer la création de comptes faux ou abusifs. L'an passé, Facebook avait dû faire face à plusieurs scandales sur la gestion des données personnelles de ses utilisateurs, notamment après les soupçons de manipulation de l'opinion lors de la dernière présidentielle américaine. Internet et des affaires aussi de téléchargement illégal. Un étudiant en informatique comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Besançon. Il est accusé d'avoir créé une plateforme illégale de streaming qui proposait plus de 2 millions d'épisodes de séries télé. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Alors 10 ans après la création de l'Hadopi, la haute autorité contre le téléchargement illégal, cette instance est-elle vraiment efficace, Alexandra Kuhn ?
Si l'on prend les chiffres de la Hadopi, la réponse est simple. Oui, le piratage a baissé en France en 2018. Problème, ne sont pris en compte que les téléchargements pair à pair, tandis que les technologies de piratage, elles, évoluent sans cesse. Christophe Vitschitz, directeur des affaires publiques du groupe Canal+.
Quand vous pensez gagner du terrain sur un des modes, par exemple le pair à pair, vous en reperdez sur un autre, par exemple celui du live streaming sportif, qui ne nous concernait pas trop il y a encore quelques années parce que les qualités des sites pirates étaient assez déplorables. Mais en fait, les pirates sont bons et c'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ça nous pourrit la vie. C'est un préjudice à l'échelle du groupe en France de 200 millions d'euros par an pour le piratage.
Et le développement des offres légales de streaming n'y a rien changé. Pire, une étude du site britannique Broadband Genie prévoit que si le marché continue à se fragmenter, le nombre de pirates pourrait être multiplié par deux. Le secteur attend surtout la réforme de l'audiovisuel. Philippe Bailly, directeur du spécialiste des médias NPA Conseil.
Un des points forts du projet de loi, c'est de donner à la future Arcom, ex-Hadopi, les moyens non pas d'aller combattre l'internaute chez lui, puisque le streaming ne laisse pas de traces, en revanche, d'aller à la source, combattre ces sites de streaming illégaux en les faisant fermer ou à minima en faisant en sorte qu'ils n'apparaissent plus.
Un arsenal qui cependant ne sera pas en place avant au mieux 2021.
De très nombreuses réactions, notamment du monde sportif, depuis l'annonce du décès d'une légende du cyclisme. Raymond Poulidor est mort tôt ce matin, il avait 83 ans. Ce champion, dont la carrière a duré pendant une grande partie des décennies 60 et 70, est resté célèbre pour n'avoir jamais porté le maillot jaune et donc n'avoir gagné un Tour de France malgré son incroyable combativité. Il faut dire qu'il avait face à lui Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Poulidor, alias Poupou, alias l'éternel second, était en tout cas un éternel maillot jaune en termes de popularité. Écoutez.
En réfléchissant bien, je dis, mais j'ai bien fait de ne pas gagner le Tour de France. D'ailleurs, il y a un Poulidor tous les jours. On écoute la radio, il y a un Poulidor de la pétanque, il y a un Poulidor de l'école, il y a un Poulidor du rugby, il y a un Poulidor de la politique. Dès l'instant où un athlète ou un autre personnage arrive en deuxième position, on le baptise le Poulidor et on oublie les 180 courses que j'ai gagnées. Alors si j'avais gagné 2-3 Tours de France, on ne parlerait plus de Poulidor. Alors les jeunes, ils veulent connaître ce Poulidor. Avant c'était le papa, maintenant c'est le grand-papa. Il dit, tu vois, c'est Poulidor, c'est celui qui n'a jamais gagné de course, qui a toujours fait deuxième. Alors des fois, il y a des écoliers qui viennent me voir, ils ont 7-8 ans, ils m'abordent de la façon suivante, ça me fait plaisir. C'est toi, Poupou, c'est toi qui n'as jamais gagné, qui a fait toujours deuxième. Mon papa m'a baptisé le Poulidor de l'école, parce qu'il est deuxième à l'école, voilà.
Lui, on l'attendait du côté de Munich au Bayern. Le français Arsène Wenger atterrit finalement à Zurich. L'ancien footballeur devenu entraîneur est nommé ce soir par la FIFA directeur du développement du football mondial. L'Alsacien âgé de 70 ans a dirigé pendant 22 ans l'équipe londonienne d'Arsenal, remportant 3 titres et 7 coupes d'Angleterre. Quel temps pour demain jeudi ?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
La météo, c'est avec Sébastien Léas.
Une perturbation pluvieuse à bord de la façade ouest et va traverser le pays. Demain matin, on retrouvera cette perturbation entre les Pyrénées, le pourtour méditerranéen jusqu'au Grand Est. Les pluies vont devenir plus marquées demain après-midi, arrosant la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. La neige va également apparaître de plus en plus bas, s'abaissant de 800 mètres le matin à 300-400 mètres l'après-midi. Et on attend de grandes quantités de neige, la neige pouvant être collante et humide. Une vigilance orange est d'ailleurs en cours en Rhône-Alpes. À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne va s'installer sur les régions de l'ouest avec des éclaircies plus franches entre le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de la Seine. Mais il faut s'attendre à quelques averses le long de la Manche et dans le sud-ouest. Les températures seront encore fraîches pour la saison avec des maximales comprises entre 5 et 13 degrés et jusqu'à 17 degrés en Corse.